One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine.
Are we on the air?
Oh, salut les PD!
SLP, salut les PD, amis auditeurs, salut, hola, hello, hop là.
Ni hao.
Ni hao ma.
Yeah.
Ah, wang ha.
Ah, détation, attention.
Bon, Ghislain, merci. Ariane, de même, pour ses apports linguistiques.
De rien, Philippe.
Et, bah...
Mais oui, c'est vrai qu'avec SLP, on voyage maintenant. On voyage de Montpellier au cœur d'Hérault avec Radio Pays d'Hérault.
Alors vas-y, précise.
Et oui, depuis le début avril 2011, SLP a trouvé sa place dans la grille de Radio Pays d'Hérault et donc nous serons rediffusés sur les trois fréquences et sur le site internet de Radio Pays d'Hérault.
Donc, amis divergents, tu peux, si tu nous rates sur Divergence, nous écouter ailleurs.
Et même, ce sera en écoute à la demande sur le site d'RPH, avec un petit peu de décalage quand même.
Bon, alors là, t'as plus d'excuses pour nous rater, auditeur.
Ouais. Mais donc, on dit ça gare au début, donc s'il arrive à la fin, il n'a pas eu l'annonce.
Gare à tes fesses si jamais tu n'écoutes pas l'émission.
Oh oui, gare à tes fesses.
Donc, en attendant...
Les gens vont faire exprès de rater, Ghislain.
En attendant, on s'est enfermé dans le studio de Divergence, on a la poignée avec nous, plus personne ne peut rentrer, on fait une heure d'émission, on raconte ce qu'on veut, et on va parler aujourd'hui de structure familiale.
Enfin, on ne pouvait pas faire ça pour le sexe la semaine dernière.
S'enfermer par le sexe. On va parler donc de structure familiale, ouais, c'est pas bandant comme thème, non ?
Mais si, ça va le devenir, tu vas voir. Donc, parce que les structures familiales, tu n'es pas sans le savoir, s'explosent. Et contrairement à ce qu'on nous... Ouais, Taou nous fait le geste. Donc contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire, voilà, et comme le dit si bien notre ami et anthropologue Maurice Godelier, qu'on a déjà entendu lors de précédentes émissions, on va le réentendre aujourd'hui, voilà, c'est pas pour autant que la société est fondamentalement à la dérive et court à sa fin.
Bah ouais, voilà, parce qu'avec son expérience d'anthropologue, il nous fait découvrir qu'en fait, nous ne sommes pas la seule société valable au monde qui existe et qu'il y en a plein d'autres qui fonctionnent autrement.
Incroyable.
C'est une découverte pour vous, je crois pas.
Non, mais c'est bien de le redire.
Et de le redire encore.
On le redira après le son, alors.
Voilà. D'accord.
Donc, on écoute donc un premier son. C'est des extraits de conférences de Maurice Godelier.
Ouais, c'est ça. En fait, Ariane nous a dégoté un site méga ultra génial. C'est un site...
On mettra le lien sur les pages. Si tu ne te rappelles pas, il n'y a pas de souci.
Ouais, parce qu'en fait, c'est l'université de tous les savoirs. Mmh. Et en fait, on peut visionner des conférences. En fait, il y a des thèmes. Il y a des gens qui viennent faire des conférences. Il y a une conférence de Maurice Godelier, justement, sur tout ce qui est... cellules familiales, ce genre de choses-là, quoi. Et comme Maurice Godelier avec Caswell, c'est notre chouchou en ce moment.
On écoutera Caswell plus tard, peut-être.
Ouais, ou dans le mois, enfin, on verra, quoi.
Voilà.
Et on va vous repasser un petit son de Maurice Godelier.
Putain, quel duo de choc. Maurice Godelier et Caswell, on peut pas rêver mieux. Donc, on écoute Maurice dans un premier temps.
On écoute Momo.
Dans toutes les langues, il y a un vocabulaire pour dire des choses de parenté, quoi. En français, c'est père, mère... Si je reviens 2000 ans en arrière, d'où sortons-nous, nous ? On sort du latin, en gros. En latin, autrefois, dans l'Antiquité, on disait « pater » et l'oncle, le frère du père, s'appelait « patrus ». Il y avait un mot spécial pour le frère du père. La sœur du père s'appelait « amita ». Je me tourne vers ma mère, j'appelle « mater ». Vous voyez, nous, les Européens, on comprend tout ça. Mater, mais en latin, il y avait mater terra. un mot pour la sœur de la mère, très spécial. Et l'oncle, le frère de la mère, s'appelait Avonculus. Deux termes ont disparu. Patrus et oncle, enfin oncle, Avonculus a désigné les deux oncles, paternel et maternel. Ça a giclé, hop, mais d'autre côté, Mater Terra a disparu, également, symétrique. Vous voyez les structures, ça ne bouge pas comme ça. Hein. Si on touche à un terme, on touche à une relation. Et hop, Mater Terra a giclé et on dit tante pour les deux. Tante pour les deux, oncle pour les deux. Et après, on est bien emmerdé. On est obligé de dire, c'est mon oncle du côté de mon père, c'est mon oncle du côté de ma mère, c'est mon cousin. Parce que tout a changé aussi au niveau du cousin. Dans des tas de sociétés, c'est de dire ça, c'est le bordel total. Faut le dire, hein. Parce que moi, je parle d'autres langues. Et là, si je dis, par exemple, en Barouya, où j'ai vécu 7 ans, si je dis Noumoué, j'ai mon père et tous les frères de mon père, c'est mes pères. OK. Donc, j'ai pas d'oncle, là. J'ai pas d'oncle de ce côté-là. Je me tourne là-bas vers ma mère, je l'appelle Nouak. Et tout, là, j'ai 10 mères, là. Toutes les sœurs de ma mère sont mes mères. Mais après, je me retourne vers ce monsieur, là, le frère de ma mère. Là, il y a un terme pour lui, ça s'appelle Happy. Happy. Et tous les frères, c'est des Happy, des oncles maternels. Donc, j'ai des oncles de ce côté-là, j'en ai pas de ce côté-là. Mais pour les solidarités aussi, c'est très important de voir que les gens vont se trouver sur une autre base de solidarité. Pas de parenté, mais ce n'est pas la même que nous. Alors, vous avez compris, quoi. Bon. Alors, je ne vous parle pas de la complexité des terminologies de parenté. Mais, par exemple, en Polynésie française, vous voyez qu'il y a des petits problèmes là-bas. Vous avez entendu parler, non? Eh bien, on n'a que des grands-pères et des grands-mères. Il n'y a pas de grand-tante. Donc, tout le monde s'appelle « Bonjour, mon grand-père » et tout. Et puis, il n'y a que des pères et des mères. Il n'y a pas d'oncle du tout, même. Et il n'y a que des frères et des sœurs partout. Même s'il n'y a pas de lien génétique, il faut se traiter comme des parents. Alors, vous voyez ce que ça veut dire, se traiter comme des parents, hein ?
Bon. Bon.
Bah, ça nous fait débattre entre nous, déjà, c'est pas mal.
Ouais. Bah ouais, c'est ça. Mais il est bien, Maurice. Hein. Franchement, il est passionnant.
Bah, il fait rigoler, vous avez entendu dans le fond et tout. Tout
ouais, ouais, il est plein d'humour, en fait, ce garçon.
Et quand on écoute ses conférences dans la continuité, effectivement, c'est assez passionnant. On a l'impression qu'il passe du coq à l'âne, en fait. Non, il ouvre des tiroirs successifs, mais finalement, c'est un discours qui est extrêmement construit et qui produit énormément d'effets et qui est hyper stimulant.
Et qui est très clair. C'est-à-dire, c'est un mec qui est d'une érudition incroyable, mais tu comprends à peu près ce qu'il raconte.
Et il jargonne pas non plus, il parle aussi à partir de ses expériences qui sont nombreuses, puisque c'est quelqu'un qui a 70 ans passé, hein, je crois, voire 80 peut-être, je ne sais plus exactement.
Je ne connais pas assez encore.
Ouais. Il agit vraiment du coup en fonction de ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire que comment on appelle les choses,
voilà.
Y a une interaction extrêmement forte entre comment on nomme les choses et leur existence.
Ouais.
Et ça fait partie de ce qu'on véhicule dans une société et de l'existence ou non de tout un système de relations ou pas. Et ça, pour moi, ça participe du même ressort que ce qu'on a pu évoquer la semaine dernière sur nommer les parties génitales, ou etc. Et puis ce qui fait aussi le titre de l'émission, on s'appelle PD ou Gwyn parce que c'est descriptif, c'est pas une insulte et on l'utilise à bon escient, quoi.
Et moi, ça me fait penser à plein de questionnements qu'on a aujourd'hui quand on se penche un peu sur les évolutions des structures de la famille dans le monde qui est le nôtre. Alors, on a les familles décomposées, recomposées, la famille homoparentale, et du coup, ça crée des liens, des positions de gens qui sont au sein de cette structure, mais qui sont pas forcément, qui n'ont pas forcément de justement, qu'on ne sait pas nommer, puisqu'ils sont à des places, ils tiennent des rôles qui sont complètement hors du champ de la famille papa, maman, la bonne et
donc
moi.
Donc il n'y a pas de langage conventionnel partagé pour leur donner une place.
Exactement. Et comment on fait effectivement, dans les années qui viennent, pour réussir à les nommer et leur donner socialement une place.
Une place, ouais.
Et pareil, en plus, trop... Vas-y, si tu veux, Lucien.
Non, ce que je trouvais intéressant aussi dans ce qu'il racontait, c'est que un papa, c'est pas forcément ton père biologique. Exactement. Et tu vois, je trouvais ça intéressant aussi de replacer ça dans nos sociétés. Et on en revient toujours à la même chose, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un papa, qu'est-ce que c'est qu'une maman, qu'est-ce que c'est qu'un parent, quoi. Mmh. Et là, dans ce qu'il nous raconte, on voit que dans certaines sociétés, on a, les oncles sont aussi des parents.
Ouais. Voilà, donc l'autorité qu'on appellerait ici autorité parentale, qui a un cadre légal ici, elle est complètement partagée. Et ça veut dire qu'en fait, tous les adultes que l'enfant rencontre font cadre. Ça veut dire que tous y sont référents d'une règle, d'une façon de vivre ensemble, etc.
Et sont légitimes pour exercer cette autorité.
Dans cet espace-là, un enfant ne peut pas te dire tu ne me parles pas, tu n'es pas mon père.
Mm-hmm. Ben non, parce qu'il y a plein de papas. Voilà. Quoi.
Tous les adultes qu'il rencontre ont autorité sur lui. Ça fait partie du c'est complètement différent. Quoi. Pour moi, à partir du moment où un enfant peut dire à un adulte tu ne me parles pas, tu n'es pas mon père. Il peut dire ça à un animateur, il peut dire ça à une prof, il peut dire ça à n'importe quel adulte qui est censé avoir barre sur lui, et ça pose tout un tas d'autres problèmes derrière, quoi.
Mmh. Ghislain ?
Ouais, non, mais je trouve ça hyper intéressant sur aussi la structure de la cellule familiale, de la famille. C'est-à-dire que tout à coup, avec ces dénominations où on est tous des parents, on est tous des frères, la cellule familiale, justement, on sort carrément de papa, maman, la bonne et moi. Quand on est vraiment tout le monde, enfin, la cellule familiale devient très grande. Et du coup, c'est intéressant d'avoir qu'on nous rappelle ce genre de choses-là. Parce que chez nous aussi, la cellule familiale, elle bouge. Mmh. Et c'est bien d'avoir des références comme ça pour nous montrer. Qu'il ne faut pas rester figé, que d'autres sociétés ont inventé d'autres choses qui fonctionnent très bien et qu'il ne faut pas rester figé sur un modèle qui, de nos jours, est dépassé.
Et une perte de repères, enfin, en tous les cas, il y a des gens qui le vivent comme ça aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'on n'en retrouve pas d'autres, quoi. Et donc, c'est l'intérêt de ce genre de travaux.
Ouais, voilà, il y a deux aspects. Il y a d'une part ce qu'on nous vend comme image d'épinal de la famille avec deux parents de sexe différent, de genre différent et un ou plusieurs enfants. Cette image-là, elle n'est pas traditionnelle au sens d'historique. Mmh. Ça fait pas longtemps, en fait, que ça fonctionne comme ça.
Et qu'on a l'impression, on nous la vend comme existant.
Ah oui, voilà, c'est une image. Ah ouais. Alors non, que c'est pas du tout le cas.
D'Inter là-dessus, elle est assez passionnante.
Elisabeth,
bien sûr.
Et l'autre chose sur laquelle je voulais revenir, au niveau de la dénomination, moi, ça commence à vraiment me. Suite à l'émission qu'on a fait le mois dernier, ça m'a fait quand même réfléchir.
Okay. On te fait réfléchir, nous, mon Dieu.
Et vraiment, ça me dérange qu'on parle d'homoparentalité et de mariage gay. Parce que, en fait, en véhiculant ces mots-là, on dit que c'est différent. On est des parents, ou acceptable ou pas, le critère de l'orientation sexuelle est un critère discriminant. Pour moi, il n'y a pas, du coup, d'homoparentalité. Il y a de la parentalité. Si on la refuse pour la voie de l'adoption, c'est de la discrimination. Ça veut dire qu'on considère encore qu'on est des malades. Et de la même façon, s'il y a un mariage gay, c'est qu'on considère qu'un couple avec deux personnes de même sexe, même genre, même ce qu'on veut, ils sont discriminés par rapport à un couple qui sera reconnu par l'état civil en l'état.
Voilà. Donc si on utiliser ces termes-là, gay, ça me...
Enfin, ouais. Oui, si on parle de mariage gay, mais justement, nous on dit le mariage gay, ça n'existe pas. Parce qu'en France, il n'y a qu'un mariage légal, c'est le mariage républicain, celui qu'on signe à la mairie, et que la République, normalement, ne doit pas faire de discrimination. Donc il n'y a pas, pas de mariage gay, de mariage juif, de mariage arabe, de mariage de gens de petite taille, hydrocéphales, etc. Il y a un mariage.
Voilà, je suis d'accord, ça va mieux, merci.
Bon. Oh, on est d'accord, allez, top là.
Ouais. Bah, du coup, on en profite pour faire une pause musicale.
Quiero, quiero.
Écoutez Maurice, ça c'est pas Casuel mais c'est Hercule.
Oh, c'est pas mal Hercule aussi.
C'est pas mal Hercule. Hercule, une love affair.
Yes, it's a love affair.
Yes. Et le titre c'était My House.
Your House.
No comment.
Bon, donc les structures familiales s'explosent, c'est le thème de l'émission. Et tu vas nous faire une petite lecture, Ghislain. Une lecture de Virginie Tépante.
De Virginie Mépante.
Non, Virginie, on l'adore aussi. En plus, on a découvert son... On connaît ses livres, mais particulièrement son essai. C'est son seul essai à ce jour. Hein.
Oui.
C'est ça, Ariane.
Ouais, c'est des œuvres de fiction.
Donc, qui s'appelle King Kong Theory.
Ouais.
Qui est assez secouant, qui est un petit bouquin qui fait quoi, une soixantaine de pages, peut-être un peu plus.
Non, c'est un peu plus quand même, mais c'est très court.
Mais ça se lit super vite, c'est pour ça que je dis
145.
Ah oui, quand même.
Tout le monde ne le lit pas très vite, parce qu'il y a quand même des trucs qui sont super secouants, et je connais des gens qui sont peut-être moins avertis que toi, Philippe, qui ont mis du temps, qui ont eu besoin de le poser, de revenir plus tard, etc.
D'accord.
Mais moi, la deuxième fois que j'ai lu, je l'ai dévoré, hein, j'avoue. Mais la première fois, j'ai mis du temps.
D'accord. Et l'extrait que tu nous lis, alors c'est en lien, évidemment, avec ce dont on traite. Ce dont on traite aujourd'hui.
Ben ouais, quand même, ouais. C'est mieux.
Ça tombe bien. Et c'est sur le rôle assigné au père
au
et
papa.
Ses évolutions
mais
possibles.
Mais laisse-le lire, tu vas voir.
Ouais, t'as raison.
Enfin, ouais, voilà. Oui, laisse-moi un petit peu, Philippe, là, quand même.
Prends
voilà,
ta place.
Là. De la même manière, les femmes auraient intérêt à mieux penser les avantages de l'accession des hommes à une paternité active, plutôt que de profiter du pouvoir qu'on leur confère politiquement via l'exaltation de l'instinct maternel. Le regard du père sur l'enfant constitue une révolution en puissance. Ils peuvent notamment signifier aux filles qu'elles ont une existence propre, en dehors du marché de la séduction. Qu'elles sont capables de force physique, d'esprit d'entreprise et d'indépendance, et de les valoriser pour cette force, sans crainte d'une punition immanente. Ils peuvent signaler au fils que la tradition machiste est un piège, une sévère restriction des émotions au service de l'armée et de l'État. Car la virilité traditionnelle est une entreprise aussi mutilatrice que l'assignement à la féminité. C'est beau, moi j'aime bien.
C'est beau et bah ouais, comme tu le disais, c'est percutant et c'est puissant, hein, finalement.
Et c'est assez hallucinant parce que la suite est aussi percutante. Puis quand on continue, la suite, elle est encore aussi percutante. Enfin, c'est incroyable ce truc. Ça va être notre troisième chouchou. D'accord.
Virginie.
On va avoir Maurice, Caswell et Virginie.
Ah, pour moi, Virginie prime. Hein. Là, c'est.
D'accord. On fera des votes en fin d'année.
En plus,
sur le chouchou des chouchous.
C'est intéressant en tout cas qu'elle parle de ce rôle de père dont on parle quand même pas beaucoup comparé au rôle de la mère, c'est-à-dire on considère qu'il a quand même une moindre importance et qu'elle amène justement toute l'originalité que pourrait avoir le regard d'un père actif.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle le fait en interpellant les femmes là-dessus,
ouais.
en leur proposant de laisser la place. Quoi.
Parce que elle montre très bien qu'on utilise les espaces qu'on nous laisse.
Mmh.
Et donc il y a des réticences à laisser les espaces où on est maîtresse du coup. Et c'est ça tout le problème parce que puisque actuellement l'éducation est encore très largement assurée par les femmes et que le machisme perdure, c'est bien qu'il y a des femmes pour le transmettre. Même si bien sûr on est au contact avec la société, etc. Il y a des comportements au moins misogynes qu'on peut détecter dès la maternelle, quoi. Mmh. Ce qui n'existait pas forcément auparavant, où la différenciation sexuée et tout ce qui regarde la pudeur intervenait un petit peu plus tard, hein, chez les petits-enfants. Mais tout ça bouge énormément, c'est extrêmement intriqué, mais c'est très... moi, la lecture de King Kong Theory m'a vraiment énormément secouée. Mmh.
Mais en plus, cette place aux hommes, elles ne pourront la laisser. Elles peuvent difficilement la laisser parce qu'en fait, on leur dit aux femmes qu'elles ne pourront être une femme complète que lorsqu'elles auront été mères. Donc,
ça, c'est de l'essentialisme détestable, quoi.
Ben ouais, je sais, sauf que c'est le discours ambiant. C'est le discours ambiant, c'est ce qu'on leur bourre le crâne quand même avec ça.
Mais c'est le problème de ce discours dominant qui reste dans l'exploitation des personnes, dans les mettre dans une situation de soumission. Parce qu'il y a aussi complètement d'autres discours où justement on va te dire que l'instinct maternel, ça n'a rien d'un instinct. Être une femme, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? Enfin, ce bouquin-là en particulier pose plein de questions. Moi, ça m'a beaucoup marqué sur la place du viol parce que c'est vrai que moi, dans...
Ouais, ça, on y reviendra dans d'autres émissions, mais vas-y,
voilà, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué, que ce soit dans le travail que j'avais lu avant dans Baise-moi, mais aussi... dans le premier film que j'ai vu de Catherine Breillat, c'est quelque chose qui m'avait vachement marqué comment c'était traité, parce qu'on ne dit pas qu'on peut fantasmer sur le viol. C'est impossible de dire ce genre de choses.
C'est pas politiquement correct du tout. Hein.
Voilà, et ça pose les mêmes questions de la place du viol dans la société, violences faites aux femmes, marque de la domination des hommes, le corps de la femme comme objet à disposition, qu'est-ce que ça veut dire, et qu'on attend de la femme qu'elle ferme sa gueule et qu'elle pleure en silence et qu'elle sorte du marché de la baise ou de la séduction, je sais plus comment elle le présente, enfin en tout cas le marché au bon mariage.
Et on va pas s'éloigner trop de notre sujet. Pour y revenir, je propose qu'on réécoute à nouveau Momo.
Ouais, on va écouter Momo.
Maurice Godelier.
Ouais.
Donc, autre extrait de cette fameuse conférence. Là, il parle plus précisément de quoi, Gislain ?
De la fabrication culturelle, en fait, des structures...
En partant de l'exemple du christianisme, c'est
ouais,
ça ?
Ouais, voilà, c'est ça.
Ok, on écoute.
Mais qu'est-ce qui était la formule dans la Bible qui a été reprise par les théologiens ? C'est une formule qui dit ceci. Quand un homme... fait l'amour avec une femme avec un homme, ils ne deviennent qu'une seule chair. Et les enfants deviennent la chair de leur chair. Bon, allez dire ça en Chine, allez dire ça en Nouvelle-Guinée, que quand vous faites l'amour avec un homme ou moi avec une femme, je deviens sa chair, les types vomissent. C'est une représentation qui les heurte profondément. Et c'est sur cette base-là qu'on interdit... Dans le christianisme, jusqu'au XIIIe siècle, on multiplie les interdits de mariage. Cousins du premier degré, cousins du deuxième, quatrième, cinquième, ils sont allés jusqu'au septième, au XIIIe siècle. Et alors là, ça ne marchait pas parce que les aristocrates se marient entre eux, quoi. Et deuxièmement, les paysans vivent entre eux et ils ne trouvaient plus de femmes. À force de chercher loin, donc il a fallu que l'eau, c'est-à-dire l'Église mette de l'eau dans son vin... Et on a réduit du XIIIe siècle de 7 à 4, et ensuite de 4 au XIXe siècle à 2. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce que fait l'Église, mais... Bon. Alors, donc vous voyez aussi que l'élasticité des interdits, et que vous les comprenez dans une logique culturelle. Ailleurs, non, ce n'est pas la même chose. On va peut-être interdire le troisième degré aussi, mais pour d'autres raisons. Ce n'est pas universel qu'on interdise tous ces parents-là.
Ouais, moi là, ce qui m'a intéressé, c'est justement de voir que tout ça, c'était plein d'espoir, si tu ce petit extrait.
Alors, explique-nous.
Parce que du coup, ce qui nous montre, en gros, c'est que toutes ces relations entre les gens, et tout ça, c'est des constructions qui sont culturelles. C'est-à-dire qu'à un moment, il va y avoir une culture dominante, c'est-à-dire le christianisme qui arrive, qui va faire plein d'interdits et tout ça, selon sa philosophie, ses croyances, sa morale. Et que, petit à petit, on va s'apercevoir que ça mène à des impasses, c'est-à-dire ce qu'il nous raconte sur les aristocrates et sur les paysans, et que du coup, on va devoir changer les choses. Mmh. Parce que la société, elle est, ce qui existe dans la société, ça ne correspond plus à l'idéologie dominante. Donc je trouve ça plein d'espoir, en fait. Tu vois, c'est-à-dire que pour ce qui nous concerne, nous, aujourd'hui, c'est-à-dire que nous, notre société aujourd'hui, telle qu'elle se vit, elle correspond plus à l'idéologie dominante qui est héritée du 19e siècle.
La preuve,
et du coup, il va bien falloir...
Et qu'on sent bien qu'on est dans une période de mutation.
Et que du coup, il va bien falloir qu'elle s'adapte comme elle s'adaptait avant. Donc, en fait, c'est plein d'espoir. Mmh.
Plein d'espoir, et oui, ça permet de prendre un peu plus de recul et de s'ouvrir des perspectives. On renvoie aussi, alors il y a les conférences de Godelier qu'on peut visionner facilement sur le net. Il y a son ouvrage de référence, on l'a déjà évoqué, mais on rappelle le titre, c'est Métamorphose de la parenté. Et effectivement, pour encore une fois réaliser que on est dans une société qui est en plein questionnement sur la famille, qu'est-ce que c'est que la cellule familiale aujourd'hui, et plutôt que de se scléroser complètement en restant ratatiné sur les questionnements qu'ont certains de nos hommes politiques, hommes ou femmes politiques d'ailleurs, c'est bien d'aller chercher de l'info ailleurs, encore une fois, de voyager dans le temps, dans l'espace, et de se rendre compte que, encore une fois, il y a plein de modèles qui fonctionne ailleurs, dont on peut s'inspirer, bien évidemment.
Et que le mouvement est un mouvement vers l'avant et pas un mouvement vers l'arrière. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de réaffirmer un dogme et de le pétrifier alors qu'il ne correspond plus à ce qui se passe quoi, dans la société, à la vie des gens.
Je vous trouve quand même vachement optimiste. Hein. Franchement... Parce que là, les problèmes de marier les paysans ou les aristocrates, c'était un problème de conservation du pouvoir ou de conservation de la natalité. Aujourd'hui, conserver le modèle actuel ne pose pas du tout ces questions-là. Ou justement, permet le maintien. Donc moi, je serais plutôt de l'avis de Virginie. Soit on bouge nos culs, soit on sait vers quoi on régresse.
Mais c'est pas de, on ne dit pas autre chose. Hein.
Ah,
ouais. On ne dit pas qu'il ne faut rien faire.
On ne dit pas autre chose. Mais pour bouger, justement, et pour... quelque part s'assurer de la légitimité de bouger, et ben effectivement c'est bien d'aller voir ailleurs comment ça fonctionne quoi.
Il faut être nourri, tu vois, pour défendre ton truc, il faut que tu sois nourri.
Moi, j'ai mangé King Kong Theory, ça va plus fin.
Si tu arrives que t'es complètement sec ou que t'as trois arguments à deux balles, tu vas pas loin.
Voilà. Donc, inspirez-vous, lisez, ouvrez-vous, bougez, allez voir ailleurs comment ça fonctionne. Hein. On s'arrête là?
Déjà.
On n'a pas le choix, une demi-heure, il faut qu'on rende la poignée.